Mon intervention, ça va s'appeler « Le silence de Pérec ». Il arrive que longtemps, on lise sans lire. J'ai lu des dizaines de fois, dans le passage qui suit l'évocation de ses parents dans W ou le souvenir d'enfance, les mots de Georges Pérec, « Le scandale de leur silence et de mon silence ». En ne prêtant attention et émotion qu'au début de l'énoncé, le scandale de leur silence. Et puis un beau jour, je suis arrêté sur le scandale de mon silence. Qu'est-ce que ça veut dire, le scandale de mon silence? Scandale, le mot est très fort. Ça dit une plaie ouverte, une indignation, une colère légitime. Silence, le mot interroge chez un auteur qui a déjà 7 livres publiés. Alors j'ai recommencé à lire W, bien sûr, et puis l'œuvre de Pérec, avec cette question en tête. Qu'est ce silence et qu'est-ce qu'il dit silencieusement, bien sûr? Je voudrais être comme quelqu'un qui ajuste le son d'une radio. La musique entendue, vous la connaissez. Mais je souhaiterais vous la faire entendre en changeant légèrement la balance des sons et notamment la pesée des silences. Première partie, les deux Pérec. Je vais reprendre des données 1000 fois commentées. La première partie de W nous met face à un personnage à l'identité disloquée, sans nom ni prénom, ancré de façon non moins disloquée dans l'espace et dans le temps. Je suis né le 25 juin 1900, vers 4h, à R, petit hameau de trois feux, non loin de A. Une identité silence. On ne sait de cet anonyme que deux choses. C'est un déserteur. Il vit tout près de l'autre côté de la frontière, comme si sa vie s'était silencieusement immobilisée en Allemagne. De cette vie hors histoire et sans histoire, rien à raconter. Le message d'Otto Apfelstahl va le sortir. Otto Apfelstahl représente très évidemment une figure du psychanalyste. De fait, Pérec, là aussi, on lisait longtemps sans lire, parce qu'il suffisait de lire pour le voir, lui a donné très précisément les traits de Michel de Musan. Un homme d'une quarantaine d'années, plutôt petit, très maigre, avec un visage en lame de couteau, des cheveux très courts, déjà grisonnants, taillés en brosse. On ne saurait mieux dire. Les initiales MD prennent tout leur sens si on les réfère à ce Michel de Musan, que le Derrière et Pérec appelaient le DEM. Enfin, Pérec lui donne un patronyme qu'on ne peut lire que comme juif. Il pose au faux Gaspard Vinclair la question qui lance tout le programme narratif de cette partie. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il était advenu de l'individu qui vous a donné votre nom? La réponse, vous la connaissez. Là, on attendait un nom de père. C'est d'un enfant de 8 ans qu'il va s'agir. Un enfant faussement autiste et prostré, abandonné au plus loin du loin, dans les froids extrêmes, à la recherche duquel le pseudo Gaspard Vinclair est invité à partir. Et cet enfant ne sera jamais retrouvé. Il a peut-être été abandonné par sa mère. Cécilia et l'équipage l'auraient laissé volontairement sur un îlot. Son existence actuelle est dite certaine, mais il est introuvable, hors mot, dans le silence, en on ne sait quel antipode. On a eu beau fouiller chaque anfractuosité du rocher, il n'est plus là. Pas de traces, pas d'indices. À cette histoire, il est donné comme une double suite. D'un côté, celle qui concerne le faux Gaspard Vinclair, devenu cet homme qui dort les yeux ouverts. Otto Apfelstahl vient de le réveiller. On sait que la mission a été entreprise sans être menée à bien. L'enfant reste introuvable. Mais de ce trajet à sa vaine recherche, il y a à témoigner, d'autant plus qu'il est seul témoin d'un monde englouti. Il y a à porter une parole sur ce silence. Sur le versant biographique, l'enfant de Villard succède à l'enfant de Villain. Au prix d'une cassure radicale, d'une mise au tombeau de l'oubli du premier. Reclus dans une crypte inaccessible. Je n'ai pas de souvenir d'enfance. L'essentiel, il l'a oublié, perdu, laissé choir dans le silence. Je vous rappelle ces mots de Lieu, qui datent de 69. Il reste inconcevable que je n'ai aucun souvenir de la rue Villain où j'ai dû passer l'essentiel des 7 ou 6 premières années de ma vie. J'insiste sur cet aucun, cela signifie aucun souvenir des lieux, aucun souvenir des visages. Pas de souvenir de sa mère, pas de souvenir de l'enfant qu'il fut auprès d'elle. Avec celle qui a péri à Auschwitz, dont la mort même est sans inscription, ma mère n'a pas de tombe, sinon un faux acte de décès, a disparu l'enfant de la rue Villain, pas de trace autre que le silence de quelques photos ou le leurre de souvenirs qu'on trouvait. Ce qui fonde l'existence de Georges Perec, sa mémoire vive, a disparu. Rien à dire, sinon du blanc, du neutre. Je sais que je ne dis rien, et ce que je peux dire est signe une fois pour toutes d'un anéantissement une fois pour toutes. Par rapport à cet enfant basculé dans le néant, l'enfant du Vercors apprend vite à se débrouiller avec les lettres, les mots et les structures, à se confectionner des structures de savoir et des structures de mémoire. Un enfant se crée, voudrait-on dire. Mais c'est un autre enfant qui se donne les moyens de ne plus être ce petit Gaspard Hauser, enfant fou, qu'évoque le chapitre 13. Il se donne comme carapace les mots et les savoirs, il se forge une mémoire de substitution qui tient et retient, y compris l'inutile, elle un magazine que Junot était duc d'Abrantès ou le nom du général de l'Armina. Grâce à ce qu'offrent les livres, il retrouve enfin une parenté, cette lignée des écrivains aimés. Une parenté jouissive, mais fausse. Un beau lignage de grands noms, supposant, soit dit en passant, une ellipse du maternel, et des auteurs qui ont su ne pas disparaître. L'orphelin du Vercors a besoin pour être de tous ces étés venus derrière, de ces suspensions qui le retiennent au-dessus du vide, et lui confère une identité d'emprunt. Tel Gaspard Vinclair II, vivant la Libye fragile d'une nouvelle identité qui n'a aucun rapport avec celle de Gaspard Vinclair I, sinon l'homonymie, l'enfant Perec II est coupé de l'enfant Perec I, vrai porteur du nom, enfant de ses parents, légitime, à jamais scandaleusement disparu. Le scandale du silence de Georges Perec, c'est celui-là. L'écrivain virtuose de la lettre est le plus talentueux des champions, mais c'est à jamais Perec II, le faux, qui a reçu son nom du vrai, qui a pris sa suite, mais qui n'en est que le substitut. Au vrai, le silence, au faux, les mots, les savoirs, la mémoire, l'héritage littéraire. Mais aussi la mission de partir à la recherche de ce, entre guillemets, pauvre enfant, du côté de ces îlots inaccessibles, inhabités, inhabitables, citation, sans jamais le retrouver. La mission est de ne jamais oublier Perec I, de le faire exister tel qu'il est, disparu, introuvable, silencieux, mais toujours en vie, et de le signifier dans ces textes. Les trois traces majeures du silence de Perec dans ces textes me semblent être ces catégories de la dont il a tenu à faire des outils déterminants de sa création, le manque, le faux, et presque invisible, tous ces ancrages, dont Bernard Magnier et d'autres à sa suite ont su faire le repérage et derrière lesquels il s'est voilé, dévoilé. Le manque et le faux, à l'œuvre dans chaque chapitre de la vie mode d'emploi, ne sont pas que des emprunts plaisants à la théorie oulipienne du clinamen, d'aimables et facétieuses dérives par rapport à des contraintes avec lesquelles on en userait avec un certain sourire, le meilleur des trompe-l'œil. Ce sont, pour Perec, des marquages identitaires fondamentaux. Le souvenir de leur mort, l'affirmation de ma vie, le scandale de mon silence en passent désormais par eux. Perec II va dire le manque du vrai Perec I, avec les moyens du faux, qui sont désormais les moyens de Perec II, cet écrivain qui a consacré à la question du faux la part majeure de son œuvre. Deuxième partie, le manque, la cassure. La plupart des textes narratifs de Perec supposent l'ajointement de deux textes, de deux lieux textuels différents. Parfois un simple préalable qui semble s'intégrer comme naturellement à la suite, avant d'explorer les espaces, mettre en scène la page où ils vont venir s'emboîter, avant de débouler dans l'immeuble de la rue Simon-Crubelier, un avant-propos sur l'art du puzzle et ce qu'il implique. Mais, à plusieurs reprises, cette nécessité de la double détente prend d'autres proportions. Il y aurait comme un texte cassé, où la première partie est détachée de la seconde, avant que soit racontée une histoire, en est contée plus succinctement une autre, qui n'a qu'un rapport lâche, ou même apparemment pas de rapport du tout, avec la suivante. Comme si l'histoire numéro 2 ne pouvait être dite que sur le substrat de cette histoire numéro 1, destinée à être comme oubliée. Comme si les rapports béants entre Pérec 2 et Pérec 1 avaient constamment à être remis en scène plus spectaculairement qu'avec la procédure du préalable. Et je voudrais en donner 3 exemples. Prenons la première partie du voyage d'hiver. Elle n'a aucun rapport avec la suite, celle éblouissante, qui a retenu l'attention de tous les lecteurs, l'histoire de ce livre disparu qui multiplie les plagiats par anticipation et vient une fois de plus faire tournoyer vertigineusement vrai et faux. Une histoire contée avec un tel brio qu'au terme de la lecture, on a comme oublié ce premier récit tant il ne s'emboîte pas avec le reste. Je vous rappelle les données. Un paysage qui évoque avec une insistance insidieuse les Flandres ou les Ardennes, Rimbaud bien sûr, les Ardennes, mais aussi les lieux où vit silencieusement le déserteur de W et où se déroule le crime de Chaumont-Porcien dans La vie mode d'emploi. Le non-récit d'un, entre guillemets, voyage aux allures initiatiques, retracé, citation, en termes sibyllins, et en l'occurrence, pas retracé du tout, un voyage silence, dont chaque étape, je cite, avait été marquée par un échec, comme dans W. On laisse flotter dans cette brume insensée l'image de la psychanalyse sans chercher à la cerner davantage. Au terme de ce voyage, le héros anonyme, je cite, « un homme dont tout laissait à penser qu'il était jeune, arrivé au bord d'un lac noyé dans une brume épaisse. Un passeur le conduit sur un îlot escarpé au milieu duquel s'élevait une bâtisse haute et sombre. Tout lecteur de W est assailli de réminiscences, l'île presque inaccessible, la forteresse, etc. » Interviennent alors un vieil homme et une vieille femme, tous deux drapés dans le long cape noir qui semblait surgir du brouillard et qui venait se placer de chaque côté de lui, lui saisissait les coudes, se serrait le plus possible contre ses flancs, presque soudés les uns aux autres, ils escaladaient un sentier éboulé, pénétraient dans la demeure, grimpaient un escalier de bois et parvenaient jusqu'à une chambre. On songe bien sûr aux vieux acteurs de seconde zone de la fin du procès, je le cite, le procès, « K marchait entre eux tout raide, il formait un tel bloc qu'on aurait pu écraser l'un d'entre eux sans anéantir les deux autres, il réalisait une cohésion qu'on ne peut guère obtenir en général qu'avec de la matière morte. Et on trouve chez Pérec comme chez Kafka un pont et une île. Kafka, ils s'engagèrent tous les trois sur un pont baigné par le clair de lune. Pérec, à peine le jeune homme avait-il posé le pied sur l'étroit ponton, l'eau se divisait autour d'une petite île sur laquelle se pressaient des feuillages épais. » Et c'est un décor de conte magique que mène ce couple endeuillé. Une chambre avec un lit recouvert d'une cretonne à fleurs, un feu dans la cheminée, un repas. Une soupe de fèves, une macreuse. Ça m'a arrêté longtemps, la soupe de fèves et la macreuse. C'est sur ce souper solitaire donc que s'achevait la première partie. Ce début a été rapproché à juste titre de celui de Palude, de Gide. Je cite Palude, l'histoire d'un célibataire dans une tour entourée de marais et qui, dès la deuxième page du livre, mange des macreuses, en l'occurrence des oiseaux. Mais, c'est bien connu, une macreuse peut en cacher une autre. Les deux plats évoqués entrent dans les traditions culinaires juives. La viande au pot-au-feu qu'on appelle macreuse est à la base de ce que Google m'affirme être le plat mythique de la culture juive, le tchoulent. La soupe aux fèves est un plat traditionnel de la fête de Pessa. Dans le silence de cette chambre solitaire où il était conduit par ce couple de morts, le jeune homme a ingurgité des plats de la tradition juive, une histoire opaque de transmission hors les mots. Opaque et ambigu, quelle saveur a ce repas contraint ? On n'en sait rien. Dans les notes préparatoires qui sont reproduites dans le cahier Georges Pérec, là, le couple inquiétant, le couple endeuillé, là, tient une auberge et le héros se suicide au petit jour dans un marais noyé de brouillard. Donc, je pense que leur noir était là. Bon. Ce court récit est dit net que le, je cite, le prétexte anecdotique de l'histoire du voyage d'hiver tel qu'elle se déroule. Prétexte anecdotique, voire. Comme entre les deux fictions de W, il y a une cassure entre les deux récits et aucun ponton pour faire les liaisons. Ce qui ne signifie pas qu'il n'y en ait pas des liaisons, au contraire. Ce qu'évoque plus que silencieusement ce récit rédigé dans les mêmes temps qu'Ellis Island, c'est l'origine juive de l'auteur de cette histoire et la question de la transmission. De toute façon, le titre donné à ce récit est pour tout lecteur de W éloquent. Un voyage d'hiver renvoie évidemment à celui que fit en février 43 Sir Lapérec. Mais il y a cassure, disjonction apparemment totale. Deuxième exemple, la disparition. Le texte s'ouvre sur un avant-propos hors des comptes des 26-1, chapitre suivant, où l'on saura plus tard qu'ici s'inaugurait la damnation, jamais réévoquée par la suite. Il donne une clé musicale et thématique du livre, mais reste pièce disjointe, ce que tout lecteur de la disparition oublie vite. La disparition est subrepticement, quasi imperceptiblement, un livre cassé en deux. La damnation inaugurale d'abord, les mésaventures d'Anton Veuil ensuite. Entre les deux, le lecteur a à mettre un point d'interrogation ou trois points de suspension. La disparition ne s'écrit que parce qu'il y a eu au préalable la damnation. Troisième exemple, W, inutile d'insister, les deux parties biographiques et narratives et fictionnelles disent plus qu'une césure, il y a là un abîme, les deux parties restent cassées, là, ostensiblement. La péricologie s'est développée depuis deux ou trois décennies en se déployant avec souvent beaucoup d'astuces et de perspicacité dans l'art de repérer des réseaux, des sutures et autres liens cachés, quelquefois en cédant à la tentation de la surinterprétation et en faisant dire au moindre 4, pas trop loin d'un 3, ce qu'ils ne disent peut-être pas. Mais à peut-être suturer et réseauter, on en oublie ce qui motive cette frénésie de la reliaison, autrement dit les cassures structurelles. « Ta mère n'a pas recousu tes affaires. Nulle errante Rachel ne t'a recueilli sur ton épave. » Alors, recueillir, repriser, recoudre, oui, absolument, mais en restant le regard fixé sur la déchirure, sur le naufrage, sur le manque qui a à rester manque. De toute façon, Pérec a besoin de mettre en scène de la cassure, des espaces disjoints, et de relier des temps ou des espaces hétéroclites, comme s'il y avait pour lui une nécessité à inscrire un « ici » opposé à un « là-bas », un « avant », un « après » séparé par de la cassure. Le prière d'insérer d'espace d'espace fixe notre regard sur les laps d'espace, tout ce qui vient briser, courber, déconnecter les 10 espaces. Les lieux d'une ruse met en scène, avant le propos sur l'analyse, le temps précédent, ou ne parvenait pas à s'écrire ce texte. De la vie mode d'emploi, Pérec a tenu à dire qu'il y avait fait imploser le roman, et le roman se construit de la relation d'espace fragmenté. Étonnant, et dans 53 jours, le chapitre étampe, à peine rattaché à l'intrigue. Il vient donner une sorte de hors-scène, hors-texte de la narration, qui ne peut qu'interroger. Pourquoi, pour reprendre des termes stendhaliens, ce coup de pistolet dans ce concert-ci? Sinon, peut-être pour rappeler que les histoires que raconte Pérec ne sont pas à prendre au premier degré, qu'elles sont presque toujours précédées ou prolongées par un autre espace, les caves infernales de l'immeuble de la rue Simon-Crevelier, par exemple, ou un autre temps. Autre façon d'introduire le manque, la question de l'incohérence. Pérec est de ce point de vue tout, sauf un romancier réaliste. Par exemple, dans la première partie fictionnelle de W, les éléments avec lesquels nous construisons la lecture des réseaux de continuité et d'explication ne fonctionnent pas. Ils sont tout le temps interrompus. Une information se dérobe, une qui semble adventice vient parasiter la lecture. Dès qu'on cherche à s'enclore dans le confort d'un système narratif, on en est délogé. On flotte entre des univers de fiction qui coïncident difficilement. Un exemple parmi mille autres possibles, dans ce passage du versant réaliste à la haute fantaisie, Cécilia Vinclair serait une Autrichienne réfugiée en Suisse du fait de la guerre. On est dans un contexte réaliste. On est dans les années 40. Et la voici qui affronterait un yacht, lui, tout comme son équipage, droit sorti de plusieurs romans de Jules Verne. Cassure de cohérence. Ce genre de bascule, le lecteur ne cesse de l'éprouver au fil de ses pages. Il murmure entre ses dents « ça ne colle pas », en trouvant par ailleurs mille détails qui collent. Ce qui nous est suggéré ainsi par Pérec, c'est que son histoire ne peut se dire que sous le signe de l'incohérence et de la rupture, et qu'en même temps, il y a réseau tissé et chemin parcouru. C'est dans cette contradiction que s'écrira W. W, le souvenir d'enfance, offre le paradoxe de tracer une jeunesse de soi où la place fondatrice est donnée à la cassure. Alors que Rousseau, Léris, Sarrault, tant d'autres cherchent à dessiner des continuités dans le retracé de leurs origines, c'est une rupture de soi que Pérec met en scène. Une mort et une résurrection, Lazare Vinclair, comme il est dit dans le Condottiere. Si Lazare il y a, cette Vita Nova s'est payée au prix fort. Pérec II ne retrouvera jamais Pérec I et sera amené à répétitivement mettre en scène les scénarios de l'imposture, l'écriture de l'imposture, en s'y révélant plutôt génial, tout en restant un personnage tragique. Partie suivante, faux et usage de faux. Passer de la rue Villain avec sa mère, aux divers lieux étant du Vercors, pour se retrouver dans le 16e arrondissement de Paris avec une nouvelle configuration familiale, de telles métamorphoses ne pouvaient que mener aux questions identitaires les plus frontales. Comment ne pas être aux prises, au plus intime de soi, de l'intelligence de soi, avec la question du vrai et du faux quand on a été pris dans de telles ruptures? L'enfant de la rue Villain, le disparu, qu'a-t-il à voir avec celui qui vit désormais une histoire à ce point déconnecté des lieux et des temps antérieurs? Il y a là quelque chose d'un destin et donc d'une tragédie dont Pérec n'a cessé de desserrer l'étau sans faire oublier qu'il y avait étau. La lecture du Condottiere est ici particulièrement éclairante. Quand, vers la fin du livre, c'est le moment génial du livre, Gaspard Vinclair retrace ses premiers pas dans l'art d'être faussaire, Pérec s'est littéralement découvert et, comme le narrateur se le dit à lui-même, plongé jusqu'au cou dans ta propre histoire. Il y a multiplié de façon significative les indications de date. Pendant 16 ans, ma vie a été un songe, un mauvais rêve, un drôle de cauchemar. C'est en 1943 que Gaspard Vinclair commence son apprentissage, ne se transformant en faussaire professionnel qu'en 1947. Si on fait une transposition précise, 1947, ça veut dire le retour à Paris, l'insertion dans une nouvelle vie. Pérec y revient à plusieurs reprises. Vinclair est faussaire depuis 12 ans. Il le précise, 12 fois 365 jours. Ce qui correspond à la date de rédaction du livre, 1959. Tout le monde n'a pas démoli son passé comme tu l'as fait, lui dit Stretton. À quoi Gaspard rétorque, tout le monde n'a pas le même passé que moi. La réduction-réclusion dans l'état de faussaire, le Gaspard du Condottiere en dit avec une singulière violence le scandale. Il y a là comme un meurtre ou un suicide psychique. Être faussaire, c'est l'absence de ma vie. Ça ne veut rien dire vivre, je cite, quand on est faussaire. Ça veut dire vivre avec la mort, avec les morts, pardon. Ça veut dire être mort. Cela veut dire rester emmuré dans le silence, ne pas avoir quelque chose qui serait à soi, qui ne serait qu'à soi, qui ne viendrait que de soi. Et vous savez que c'est les mots qu'il emploie pour dire ce qu'il attend de la psychanalyse dans les lieux d'une ruse. On ne s'atteint pas, je le cite encore, on est à chaque fois quelqu'un d'autre, on répète à l'infini, sans espoir d'être un jour autre chose qu'une parfaite répétition. La radicalité du propos est impressionnante comme l'acuité de l'analyse. L'immersion dans le faux devient, je cite, une organisation de ma vie, quelque chose de parfaitement naturel, comme respirer ou manger. C'était une drôle d'existence, je cite toujours, tellement fausse, fausse à l'intérieur de sa fausseté, tu comprends ? Une vie sans racines, sans attache, sans autre passé que le passé du monde abstrait et figé comme un catalogue de musée, l'univers mesquin, le camp, le ghetto. Le ghetto, le camp surgissent de façon totalement inattendue dans le contexte du Condottiere, mais ce ne sont que des mots comme absenté. Gaspard le faussaire depuis 1943 ne s'explique que parce qu'il y a eu un Gaspard I sur lequel est tombé on ne sait quel rideau de fer qui a coupé racines et attaches. Et ce Gaspard II est voué au faux absolu, vit faux, respire faux, et ne fonctionne que comme une, je cite, une machine bien huilée, ne sachant que s'emparer des signes, des traces, des marques des autres. Je cite, être faussaire, ça veut dire qu'on prend tout chez les autres et qu'on ne donne rien de soi, et fabriquer à la perfection des images fausses, scandale d'un silence. Tuer Madeira revient à faire, je cite, pour la première fois de ma vie, un geste naturel, un geste qui ne soit pas faux, comme si les chemins de l'incarnation passaient par ce sang que Gaspard fait couler. L'histoire de ce meurtre qui ouvre le récit se termine sur une image de naissance, plongée vers ce jour à mettre au monde. Une image de délivrance du faux, oui, bien sûr, mais délivrance du faux, non. Un coup de tranchant libérateur ne suffit pas pour se débarrasser de cette emprise du faux. Stratton l'interroge-t-il sur son avenir ? La réponse de Winkler est, elle est saisissante, « Je me vois bouffé par ma technique, ma patience, mes tics, mes souvenirs, mes trucs, je n'en sais rien. » Il y a là comme un destin à la fois renversé et accompli par Pérec. Technique et souvenir, tic et truc, c'est avec cette mémoire de l'art d'être faussaire qu'il va tracer son paradoxal chemin pour, prendre un mot qu'il aimait au temps du condottiere, la lucidité. Utiliser les ressources de faussaire, devenir champion de trompe-l'œil pour sans cesse venir faire vibrer, silencieusement, cette imperceptible frontière qui sépare le vrai du faux et parfois le silence de la parole. Pérec le faussaire va mettre en jeu dans presque toutes ses œuvres la question du faux et du trompe-l'œil sous toutes ses formes. Et il s'y prend de façon d'autant plus diabolique, sincère, impliquée, qu'il le fait en utilisant les voies et moyens du faussaire. Écrire, ce sera pour une part dérober à mille et un auteurs des énoncés ou des procédés, y compris dans le livre où il évoque sa détresse, son mal de vivre, son silence, thématique qui en appellerait à une authenticité, pour reprendre un mot de l'époque, là encore. Un homme qui dort est empli, on le sait, d'un nombre important d'implicitations, d'emprunts textuels divers. Même et surtout dans ce livre « Vraie, fausse confession », Pérec II dit, sans le dire, le malheur d'être le successeur de Pérec I, mais avec les ruses et les masques de Pérec II. L'intime d'une souffrance ne peut être dit qu'en chipant les mots, les images des autres, ceux, celles que lui fournissent la parenté enfin retrouvée et tout le cousinage. Mais, à la différence du Gaspard du Condottiere, il met du jeu, de la mobilité, de la ruse dans ses usages du faux, transformant ce qui était la marque de son aliénation en une pratique de la liberté. La mort du geôlier est passée par là. J'étais prisonnier de moi-même, mais Madeira était trop geôlier, dit-il. Gaspard Winkler étouffé sous le faux, Georges Pérec a appris à respirer avec le faux et grâce à lui. Le meurtre de Madeira, petite parenthèse, il est guère explicité. Ce qui compte, c'est le geste de libération, hein, le besoin de crever une enveloppe fausse. Celle d'un faux mandateur, l'image de l'égorgement telle qu'il nous la propose n'est pas facile à supporter, parce que c'est très sanguinolent, hein, cette première page de... Alors, peut-être, c'est une pure hypothèse, Pérec avait-il en tête Joseph K. Lui se laisse frapper par la lame qui lui transperce le cœur. Ici, c'est le faux maître qui est mis à mort comme un chien et il n'y a plus de honte qui doivent survivre, au contraire. Je repars sur le faux. Pérec a empli l'immeuble de la vie mode d'emploi de tant de truqueurs, menteurs, fabricateurs de faux, emprunteurs sans scrupules et autres sales types qu'on ne peut oublier qu'il y a toujours à s'interroger sur cette omniprésence du faux et des faussaires, sur l'art de la prédation et ses ambiguïtés, et sur ses aspects désespérés et désespérants. La vie mode d'emploi peut être lue, tant il y a, outre cette galerie de faussaires et de tricheurs, ce perpétuel jeu de cache-cache avec les procédures du faux et du masquage, les trompe-l'œil, à commencer par la découpe des puzzles, la surprésence des artefacts visuels, les collages de toutes sortes, comme un extraordinaire roman de l'imposture. Je me disais au fond que ce qui est génial chez Vie mode d'emploi, c'est que c'est le plus grand roman de l'imposture qui ait jamais été écrit. C'est en même temps un jeu de l'enfant, pas tous les professeurs, du jeu d'enfant sont là tout le temps. Il y a quelque chose du jeu enfantin qui est là de façon saisissante. Et en même temps, c'est un grand roman de célébration du quotidien et de l'infraordinaire. Et c'est ce mélange des trois qui fait le génie de la vie mode d'emploi. Mais Lester Novak, qui est quand même le meilleur des pères écologues, vous a déjà dit très précisément et dialectiquement tout ce qu'il fallait penser de l'art du faux. Je vous rappellerai quand même ces derniers mots, c'est dans le cabinet d'amateurs, bien sûr. Le développement ultime de cet art de l'accaparement ne peut être que le silence, un silence volontaire et autodestructeur. Le pérec empoigné par le rien n'est jamais loin du pérec le plus virtuose et le plus souriant. Dernier point qui va faire ma conclusion. Et autre technique du silence. Je ne dirai pas grand-chose tant elles ont été bien inventoriées. La plus spectaculaire et une des moins évidentes à première vue est bien sûr la présence structurante des chiffres. Bernard Magnier a été génialement inspiré lorsqu'il a détecté cette présence obsédante du 11 et du 43 qui symbolise la disparition de la mer, et ses jeux autour de l'association du 7 et du 3 se référant à la naissance de Pérec. Celui-ci réussit là à la fois à donner une inscription se substituant à celle qui manque concernant le décès de sa mère, à cette mort tout en les laissant muettes, puisqu'il a fallu un exégète particulièrement avisé pour s'en rendre compte. Il est à noter qu'il use du même codage pour encrypter la mort de sa mère et sa propre naissance. Une mort due à la Shoah et sa venue au monde, même traitement. Mort et naissance se superposent, se surimpressionnent. Mais surtout, il s'agit d'un message muet, évidemment aussi longtemps qu'on ne le discerne pas, mais déchiffré. Il redit silencieusement que ce qu'il écrit encrypte le souvenir de la mort de sa mère et l'affirmation de sa vie. Il dit tout cela, il ne dit que cela, en restant silence. Tout le système des implicitations fonctionne de façon identique. Elles disent et cachent, elles parlent à la place d'eux, tout en donnant toute sa place au silence. S'exprimer avec les phrases des autres, des lambeaux du corps textuel des autres, c'est à la fois s'inventer une liberté de parole et réintroduire silencieusement la question du mutisme. Dans toutes ces procédures d'inscription muette, il faudrait sans doute chercher à cerner davantage celles qui concernent l'identité de juif de Georges Pérec. Les premiers mots par lesquels il dit « ce que cela me fait que d'être juif » dans Ellis Island sont « un silence, une absence ». Or, dire le silence et l'absence, Pérec ne cesse de s'y employer, de leur donner place vive dans ses textes. Quand il donne à Apfelstahl un patronyme juif, avec donc la mission qui est confiée à Gaspard Binclair, quand il met en scène, comme il le fait au début du voyage d'hiver, il y a inscription silencieuse de la judaïté. Derrière le nom de Madeira, nom dont je viens de m'apercevoir qu'il pouvait être polonais, il y a beaucoup de Polonais qui s'appellent Madeira, il y a des villages en Pologne qui s'appellent Madeira, et qu'il pouvait être un patronyme juif, il y a peut-être des galeries souterraines à explorer. Il y aurait là, me semble-t-il, dans cette constante inscription presque muette de signifiants juifs, un domaine de recherche qu'il serait bien intéressant de défricher, déchiffrer davantage. Encore une façon pour Pérec II de désigner le Pérec I, toujours perdu dans son île, toujours à aller rechercher. Alors, je vais m'arrêter là, mais en indiquant, disons, deux directions vers lesquelles j'aimerais aller, et disons ce qui rend mon exposé un peu filou, qui sont que je ne fais pas de distinguo entre le silence subi et le silence agi. Et je pense qu'il faudrait absolument opérer cette distinction si on veut aller plus loin. Et je ne fais pas non plus de distinguo entre ce qui se joue entre le tu, le non-dit, le rester silence et le caché. Parce que le silence et le caché, ça se recours, mais ce n'est pas la même chose. Et ben, disons qu'il y a là des pistes à aller explorer qui me paraîtraient bien intéressantes. Merci de votre attention.